Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h du matin à Paris, 5h à Beyrouth et Jérusalem.
Diane Berger.
Les Libanais, chassés de chez eux par la guerre, regagnent progressivement leur domicile. Le cessez-le-feu tient depuis maintenant un peu plus de 24 heures entre Israël et le Hezbollah. On reviendra dans ce journal sur la gêne du gouvernement français concernant le mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou. Le Quai d'Orsay a mis près d'une semaine à prendre une position claire. Paris estime que le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité. Au sommaire également, un Parlement européen bien divisé au moment de valider la composition de la nouvelle commission. Et puis les négociations contre la pollution plastique patinent à Busan. Plusieurs pays s'opposent à l'idée de réduire la production mondiale. Une nuit sans bombardement, sans échange de tirs, sans ordre d'évacuation. Une nuit comme les Libanais n'en avaient pas connue depuis des semaines. Aucun accroc majeur n'a abîmé la première journée de trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Après 2 mois de guerre sur le sol libanais et 1 an de violence quasiment quotidienne à la frontière. Mais le Hezbollah promet qu'il ne s'arrêtera pas là. Dans un communiqué publié hier soir, le mouvement islamiste allié de Téhéran et du Hamas revendique une première victoire sur Israël et ses combattants resteront prêts, je cite, face aux attaques de l'ennemi israélien. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou bénéficie d'une immunité selon la France. Les autorités françaises ont mis une semaine à prendre une position claire après les mandats d'arrêt lancés par la CPI, la Cour pénale internationale contre le dirigeant israélien et plusieurs de ses ministres. Alors comment est-ce que le gouvernement français justifie sa décision? Explication avec Julien Chavannes.
Comme Israël n'est pas membre de la CPI, ses dirigeants pourraient être paradoxalement intouchables. Le ministère français des Affaires étrangères s'appuie sur un article flou du texte fondateur de la Cour pénale internationale, article qui peut d'ailleurs être interprété de différentes manières. Mais le temps mis par la France pour trouver une position officielle, 6 jours, et la manière dont Paris l'a rendu public, un simple communiqué, en dit beaucoup sur la gêne du gouvernement français. Cette immunité pour Benjamin Netanyahou serait en réalité au cœur d'un accord entre Paris et Tel Aviv. Israël en aurait fait une condition indispensable pour accepter que la France joue un rôle dans le cessez-le-feu au Liban. D'autres pays européens ont fait, eux, le choix opposé. L'Italie, le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils respecteraient leur engagement auprès de la CPI, à savoir arrêter toute personne recherchée par la Cour de la Haye. La décision d'Emmanuel Macron est critiquée en France, jusque dans son propre camp. Pour le Premier ministre Michel Barnier, la France doit appliquer rigoureusement les règles de la CPI.
Et la chef des écologistes français, Marine Tondelier, parle de honte à propos de cette immunité. Israël a de son côté annoncé faire appel de la décision de la CPI. Concernant le conflit au Proche-Orient toujours, 2 plaintes ont été déposées à Paris contre des responsables d'associations pro-Israël. Les plaignants dénoncent l'organisation, la participation et l'appel à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination de Gaza, des faits assimilables selon eux à une complicité de génocide. La seconde commission von der Leyen approuvée par le Parlement européen hier. Malgré de fortes turbulences en amont du vote, les eurodéputés ont donné leur feu vert à cette nouvelle équipe. Une commission approuvée par seulement 370 voix sur les 720 que compte le Parlement. Il y a 5 ans, Ursula von der Leyen et sa première commission avaient obtenu presque 100 voix de plus. Le compte-rendu du vote avec notre envoyé spécial à Strasbourg, Daniel Valo.
We now move to the vote on the election of the Commission, and it is adopted. Congratulations.
Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a beau féliciter Ursula von der Leyen. La nouvelle commission est investie avec moins de 400 voix du jamais vu dans l'histoire du Parlement de Strasbourg. Un résultat mitigé, mais l'essentiel est ailleurs pour l'eurodéputée Renew Stéphanie Yvon-Courtin, qui a voté pour la nouvelle commission.
Il est vraiment temps maintenant d'agir et c'est pour ça que cet accord de coalition est nécessaire et c'était pour ça que c'était important aussi qu'on puisse valider ces commissaires. La maison brûle.
C'est au nom de la stabilité et de l'urgence face aux défis qui se posent à l'Europe que les groupes centristes et socialistes ont finalement accepté de donner leur feu vert. Et cela malgré le poste de vice-président accordé à Raffaele Fitto, membre des Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Une faute politique majeure aux yeux de l'insoumise Manon Aubry.
C'est le fruit de petits arrangements entre amis et d'une nouvelle alliance entre la droite et l'extrême droite qui est quand même inédit dans notre histoire. Aujourd'hui, c'est un jour triste.
À gauche du Parlement européen, on s'inquiète de cette brèche dans le cordon sanitaire et l'on accuse les conservateurs du PPE de vouloir pactiser avec l'extrême droite sur certains sujets et en particulier sur les questions environnementales. Daniel Valot, Strasbourg, RFI.
Les bureaux de vote ont fermé beaucoup plus tard que prévu en Namibie pour l'élection présidentielle, car des problèmes techniques ont causé d'importants retards. Certains électeurs ont dû attendre parfois 12 heures pour voter. Pour cette élection qui s'annonce très disputée, la SWAPO, le parti au pouvoir depuis 50 ans, pourrait bien perdre la main. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé au Tchad hier soir. Premier déplacement de Jean-Noël Barrot en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction. Il est attendu dans le nord du pays ce matin, à la frontière avec le Soudan, dans un camp de réfugiés qui ont fui les combats. Alexandra Branjon, le ministre a insisté avant de partir. La crise humanitaire au Soudan est une priorité.
La France n'oublie aucune crise, a répété Jean-Noël Barrot avant son départ. À peine arrivé au Tchad, le ministre se rend dès ce matin à Adré, dans le nord du pays, ville frontalière avec le Soudan. 18 mois de conflit ont déplacé 11 millions de Soudanais, dont 3 millions ont quitté le pays. Le Tchad, à lui seul, accueille plus de 600 000 réfugiés massés le long de la frontière. Il s'agit de la crise humanitaire la plus grave de notre époque, a répété le ministre des Affaires étrangères. Avec 26 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, nous devons nous mobiliser. La France a d'ailleurs été au premier plan de l'aide humanitaire avec la conférence des pays donateurs en avril dernier, qui a permis de recueillir 2 milliards d'euros de promesses de dons. Mais depuis, la crise a empiré, l'aide n'arrive pas ou alors au compte-gouttes. Le chef de la diplomatie française se rend sur place, dit-il, pour s'assurer que ses engagements sont pris et, ajoute-t-il, pour appeler les autorités à préserver l'accès aux convois humanitaires pour que cette aide puisse parvenir aux populations concernées.
Les relations entre la France et un autre pays d'Afrique maintenant, Bola Tinubu est arrivé à Paris hier soir. C'est la première visite d'État d'un président nigérian en France depuis 24 ans. Au programme des questions de sécurité et d'économie. La France où les députés et sénateurs ont réussi à s'entendre sur un texte de compromis concernant le budget de la sécurité sociale hier soir en commission mixte paritaire. Le texte doit encore être adopté maintenant par les deux chambres du Parlement. Et le risque d'une chute du gouvernement se fait de plus en plus tangible. Les députés d'extrême droite pourraient bien voter une motion de censure de la gauche concernant le budget de l'État pour 2025. Aux États-Unis, Donald Trump nomme un fidèle, Kiff Kellogg, au poste d'émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Une fonction qui n'existait pas jusque-là. Concrètement, le général à la retraite va piloter la tentative de médiation promise par le nouveau président élu du pays. Le milliardaire a en effet juré pendant sa campagne qu'il mettrait fin très rapidement à la guerre entre Kiev et Moscou, sans jamais préciser comment. Donald Trump, qui a aussi échangé avec la présidente du Mexique, il affirme même s'être mis d'accord avec Claudia Sheinbaum pour que son pays stoppe l'immigration clandestine en direction des États-Unis. Des propos contredits peu après par la dirigeante qui répond que la position de son pays n'est pas de fermer les frontières. Les négociations se poursuivent à Busan, en Corée du Sud. 175 pays réunis pour avancer sur un traité contre la pollution plastique. Mais les négociations sont difficiles. Certains pays résistent, selon un délégué joint par RFI, Juan Carlos Monterrey, représentant du Panama, un pays particulièrement touché par la pollution plastique sur son littoral.
Nous plaidons pour un traité qui s'attaque non seulement à la consommation, mais également à la production de plastique. La proposition des petits pays insulaires du Pacifique est très intéressante de ce point de vue. Il s'agirait de réduire de 40% la production mondiale de plastique entre 2025 et 2040. Mais il y a plusieurs pays dans cette négociation qui sont totalement opposés à la simple mention du mot production. Au Panama et avec d'autres pays d'Amérique latine, nous travaillons à une position intermédiaire. On ne peut plus attendre. On a trouvé du plastique dans les profondeurs de l'océan, au sommet du mont Everest, dans l'organisme des nouveau-nés. Aujourd'hui, en séance plénière, face à l'absence de consensus sur une réduction globale de la production de plastique, nous avons proposé qu'on réduise au moins la production de plastique à usage unique et des plastiques non indispensables.
Juan Carlos Monterrey qui répondait à Raphaël Morane pour RFI. Et puis en football, première défaite de la saison pour Monaco hier soir, battu 3-2 par le Benfica Lisbonne en cinquième journée de Ligue des Champions. Les autres matchs notables de la soirée, Lille a vaincu Bologne 2-1 et Liverpool reste en tête du classement 2-0 contre Madrid.